En 1987, j'ai repris contact avec Kobi Coetzee. Je l'ai rencontré plusieurs fois en privé, chez lui, et plus tard dans l'année, le gouvernement a fait sa première proposition concrète. Coetzee m'a dit que le gouvernement aimerait désigner un comité d'officiers supérieurs pour mener des discussions avec moi. Le président était parfaitement au courant. Coetzee, lui-même, serait à la tête de ce comité qui comprendrait Willemsee, le commissaire des prisons, Fanny van der Merwe, le directeur du service des prisons, et le docteur Niel Barnard, ancien universitaire devenu directeur du service de renseignement. La première réunion formelle du groupe de travail secret eut lieu en mai 1988 dans un club d'officiers très chic, dans l'enceinte de Paulsmoor. Je connaissais Coetzee et Willemsee, mais je n'avais jamais rencontré van der Merwe et le docteur Barnard. Van der Merwe était un homme calme et équilibré qui ne parlait que lorsqu'il avait quelque chose d'important à dire. Le docteur Barnard était dans la trentaine et extrêmement brillant, un homme doué d'une intelligence contrôlée et ayant une grande maîtrise de soi, ce que je respectais. La première réunion fut tendue, mais par la suite nous pûmes parler plus librement et plus directement. Je les rencontrais chaque semaine pendant quelques mois, puis les réunions eurent lieu à intervalles irréguliers, parfois aucune pendant un mois, puis brusquement une chaque semaine. Elles étaient en général fixées par le gouvernement, mais parfois c'était moi qui en demandais une. Le problème de loin le plus central était celui de la lutte armée. Nous avons passé plusieurs mois à en parler. Ils insistaient sur le fait que l'ANC devait renoncer à la violence et abandonner la lutte armée avant que le gouvernement accepte des négociations et avant que je puisse rencontrer le président Botha. Ils affirmaient que la violence n'était rien d'autre qu'un comportement criminel que l'État ne pouvait tolérer. Je répondais que l'État était responsable de la violence, et que c'est toujours l'oppresseur, non l'opprimé, qui détermine la forme de la lutte. Dans notre cas, ce n'était qu'une forme de légitime défense. Je me hasardais à dire que si l'État employait des méthodes pacifiques, l'ANC emploierait les mêmes méthodes. « C'est à vous, disais-je, pas à nous, de renoncer à la violence. » L'alliance de l'ANC avec le Parti communiste semblait les inquiéter autant que la lutte armée. À l'instar de la plupart des Afrikaners, ils pensaient que, comme beaucoup de communistes de l'ANC étaient blancs et indiens, ils contrôlaient les noirs de l'ANC. Je citais de nombreux exemples où l'ANC et le PC avaient eu des divergences politiques et où l'ANC l'avait emporté. Mais cela ne semblait pas les impressionner. Finalement, exaspéré, je leur dis « Vous pensez que vous êtes intelligents, messieurs, n'est-ce pas ? Vous vous trouvez énergique et persuasif, n'est-ce pas ? Eh bien, vous êtes quatre, et je suis seul. Et vous ne pouvez me contrôler ni me faire changer d'idée. Pourquoi pensez-vous que les communistes pourraient réussir là où vous avez échoué ?» Ces rencontres eurent un effet positif. Au cours de l'hiver 1988, on me dit que le président Botha avait l'intention de me rencontrer fin août. Le pays était toujours en état de trouble. Le gouvernement avait imposé un nouvel état d'urgence à la fois en 1987 et en 1988. La pression internationale s'accentuait. De plus en plus de sociétés quittaient l'Afrique du Sud. Le Congrès américain venait de voter des sanctions importantes. Début décembre 1988, ma sécurité a été renforcée et les officiers de service se sont montrés plus attentifs que d'habitude. Des changements étaient imminents. Le 9 décembre au soir, le général Marais est entré dans ma chambre et m'a dit de me préparer à partir. « Pour aller où ?» lui ai-je demandé. Il ne pouvait rien me dire. Nous sommes partis tout de suite et après environ une heure de route, nous sommes entrés dans une prison dont j'ai reconnu le nom, Victor Verster. Finalement, nous sommes arrivés devant une maison isolée, de plain pied, blanchie à la chaux, située derrière un mur de ciment, à l'ombre de très hauts sapins. Le général m'a fait entrer dans la maison où j'ai trouvé un vaste salon à côté d'une grande cuisine et une chambre encore plus grande à l'arrière. L'ensemble était peu mais confortablement meublé. J'ai visité les lieux et découvert une piscine dans le jardin derrière et deux autres chambres plus petites. Je me suis promené en admirant les arbres dont l'ombre apportait de la fraîcheur à la maison. L'endroit semblait éloigné et isolé. Seuls les barbelés au sommet des murs et les gardes à l'entrée de la maison gâchaient ce tableau idyllique. Mais c'était quand même une situation et un endroit merveilleux. Une maison à mi-chemin entre la liberté et la prison. L'après-midi, j'ai reçu la visite de Kobi Coetzee, qui m'apportait une caisse de vin du Cap comme cadeau pour la pendaison de la crémaillère. Nous étions tous deux conscients de l'ironie qui accompagnait un tel présent offert par le geôlier à son prisonnier. Il se montra extrêmement prévenant et, voulant s'assurer que j'aimais ma nouvelle demeure, inspecta la maison et recommanda qu'on surélève les murs pour préserver mon intimité, dit-il. Il me confia que cette maison de Victor Verster serait la dernière avant que je redevienne un homme libre. Ce déménagement me permettrait d'avoir un endroit pour poursuivre mes discussions en privé et avec un certain confort. La maison donnait effectivement une impression de liberté. Je pouvais me coucher et me réveiller quand je le voulais, nager quand j'en avais envie, manger quand j'avais faim. Autant d'impressions délicieuses. Pouvoir simplement sortir pendant la journée et faire une promenade si je le désirais était un moment de gloire personnelle. Il n'y avait pas de barreaux aux fenêtres, pas de tintement de clés, pas de porte à ouvrir et à fermer à clé. C'était très agréable. Mais je n'ai jamais oublié que je me trouvais dans une cage dorée. Les réunions du comité secret se poursuivaient et nous butions constamment sur ces questions qui depuis toujours nous avaient empêchés d'avancer. La lutte armée, le Parti communiste et le gouvernement de la majorité. J'insistais toujours auprès de Coetzee pour obtenir une rencontre avec P.W. Botha. À cette époque, les autorités me permettaient d'avoir des communications rudimentaires avec mes camarades à Paul's Moor et à Robben Island, ainsi qu'avec l'ANC à Lusaka. Sachant que j'étais en avance sur mes camarades, je ne voulais pas aller trop vite et me retrouver seul. En janvier 1989, j'ai reçu la visite de mes quatre camarades de Paul's Moor et nous avons discuté du mémorandum que j'avais l'intention d'adresser au président. J'y rappelais les points importants soulevés dans les discussions du comité secret, mais je voulais être sûr que le président les entende exprimer directement par moi. Il verrait que nous n'étions pas des terroristes fanatiques, mais des hommes raisonnables. À la fin de la lettre, je lui proposais un cadre très général pour les négociations. Deux questions essentielles devront être discutées. Premièrement, la formation d'un gouvernement de la majorité dans un État unitaire. Deuxièmement, la position des Blancs sur cette formation ainsi que leur insistance sur des garanties structurelles afin que le gouvernement de la majorité ne signifie pas la domination de la minorité blanche par la majorité noire. Les tâches fondamentales qui attendent le gouvernement et l'ANC seront de concilier ces deux positions. Je proposais qu'on procède dans deux étapes. Tout d'abord, une discussion pour créer les conditions favorables à une négociation. Ensuite, les négociations elles-mêmes. Je dois vous signaler que l'initiative que j'ai prise vous offre l'occasion de sortir de l'impasse actuelle et de normaliser la situation politique du pays. J'espère que vous la saisirez sans attendre. Mais il fallut attendre. En janvier, Botha fut victime d'une congestion cérébrale. Si cela ne l'empêcha pas d'exercer sa fonction de président, il fut affaibli, et d'après ses ministres, cela le rendit encore plus irascible. La violence politique et les pressions internationales continuaient à s'intensifier. Dans tout le pays, les détenus politiques avaient observé une grève de la faim obligeant le ministre de la Loi et de l'Ordre à libérer 900 d'entre eux. Sur le front international, Oliver Tambo avait des conversations avec les gouvernements de Grande-Bretagne et d'Union soviétique, et en janvier 1987, il rencontra le secrétaire d'État américain, George Shultz, à Washington. Les Américains reconnaissaient l'ANC comme un élément indispensable pour toute solution en Afrique du Sud. Les sanctions contre l'Afrique du Sud étaient poursuivies et même renforcées. La violence politique avait aussi son côté tragique. À cause de l'augmentation de la violence à Soweto, ma femme autorisa un groupe de jeunes hommes à lui servir de garde du corps quand elle se déplaçait dans le township. Ces jeunes gens indisciplinés et sans formation furent impliqués dans des activités incompatibles avec la lutte de libération. En conséquence, Winnie se retrouva entraînée dans le procès d'un de ses gardes du corps, accusé du meurtre d'un jeune camarade. Cette situation était pour moi très troublante, car un tel scandale ne servait qu'à diviser le mouvement au moment précis où l'unité était essentielle. Je soutins entièrement ma femme, qui avait manqué de jugement, mais était innocente de toute accusation grave. Un peu plus d'un mois plus tard, en août 1989, P.W. Botha annonça à la télévision sa démission en tant que chef de l'État. Dans un message d'adieu, curieusement décousu, il accusa les membres du gouvernement de manquer de confiance, de l'ignorer, et d'être aux mains du Congrès national africain. Le lendemain, Frédéric de Klerk prêta serment comme président et confirma son engagement vers le changement et les réformes. Une main nouvelle et différente tenait la barre. Même quand de Klerk devint président, je continuais à rencontrer le comité secret de négociation. Nous fûmes rejoints par Gerrit Viljoen, le ministre du Développement constitutionnel, homme brillant, docteur S. lettres classiques, dont le rôle consistait à faire entrer nos conversations dans un cadre constitutionnel. Je pressais le gouvernement de montrer des preuves de sa bonne volonté en libérant mes camarades prisonniers politiques à Paul Smoor et à Robben Island. Le 10 octobre 1989, le président de Klerk annonça que Walter Sisulu et 7 de mes anciens camarades de Robben Island allaient être libérés sans condition. Ce matin-là, je reçus la visite de Walter, Cathy, Ray et Andrew, qui se trouvaient toujours à Paul Smoor, et j'ai pu leur dire au revoir. Ce fut un moment émouvant, mais je savais que je n'aurais plus longtemps à attendre. Ils furent libérés 5 jours plus tard de la prison de Johannesburg. Cet acte valut à M. de Klerk des félicitations de l'intérieur et de l'extérieur, et je lui transmis les miennes. De Klerk commença à démanteler beaucoup de forteresses de l'apartheid. Il ouvrit les plages d'Afrique du Sud aux gens de toutes couleurs et annonça que la Reservation of Separate Amenities Act serait bientôt abrogée. Depuis 1953, cette loi avait organisé ce qu'on appelait l'apartheid mesquin, petty apartheid, en imposant la ségrégation des jardins publics, des théâtres, des restaurants, des autobus, des toilettes et autres installations publiques en fonction de la race. En novembre, il annonça que le National Security Management System, système national de direction de la sécurité, une structure secrète créée sous Peter Botha pour combattre les forces anti-apartheid, serait dissous. Le 2 février 1990, Frédéric de Klerk se présenta devant le Parlement pour prononcer le traditionnel discours d'ouverture. Et il fit quelque chose qu'aucun autre chef d'État sud-africain n'avait jamais fait. Il commença véritablement à démanteler le système d'apartheid et prépara le terrain pour une Afrique du Sud démocratique. De façon spectaculaire, M. de Klerk annonça la levée de l'interdiction de l'ANC, du PAC, du Parti communiste sud-africain et de 31 autres organisations illégales. La libération des prisonniers politiques incarcérés pour des activités non violentes, la suspension de la peine capitale, et la levée de différentes restrictions imposées par l'état d'urgence. L'heure de la négociation est arrivée, déclara-t-il. Je retrouvai dans son bureau un monsieur de Clercq souriant, et nous nous serrâmes la main. Puis il m'informa qu'il allait me libérer le lendemain. La presse sud-africaine et celle du monde entier spéculaient depuis des semaines sur ma libération imminente. Cependant, la déclaration de M. de Clercq me prit par surprise. On ne m'avait pas dit qu'il voulait me voir pour m'annoncer qu'il faisait de moi un homme libre. En réintégrant ma maison vers minuit, j'envoyai immédiatement un mot à mes camarades du Cap pour leur dire que je serais libéré le lendemain. Je réussis à faire passer un message à Winnie et téléphoner à Walter, à Johannesburg. Ils arriveraient le lendemain en avion spécial. Ce soir-là, un certain nombre de membres de l'ANC, le Comité national de réception, vinrent chez moi pour rédiger la déclaration que je ferai le lendemain. Ils s'en allèrent au petit matin, et malgré ma nervosité, je n'eus aucun problème à m'endormir.